Nous avons une petite méditation aujourd'hui pour continuer les deux précédentes sur la sensualité. Sur la manière dont il faut comprendre à quel point nous sommes devenus pauvres dans notre corps. Quelquefois il y a des icônes, n'est-ce pas, qui montrent à quel point nous sommes devenus pauvres dans notre corps. Le mal, la maladie, la déformation, la mort aussi d'ailleurs. Tout ça, ça vient du péché originel et du fait qu'on a perdu la signification sponsale du corps. On a perdu à cause du péché originel cette vision immédiate de l'intérieur du cœur dans le corps, de l'intérieur de l'amour de Dieu dans le corps. Et la présence même vivante de Dieu jusque dans notre corps. On avait vu ça. Et quelquefois, quand on voit quelqu'un qui est défiguré, handicapé, comme par exemple Christelle, on dit, ben, oui, c'est évident, c'est clair, l'homme, l'être humain, n'est pas dans sa figure normale. Mais seulement ce qui se voit sur Christelle, plus davantage que pour nous, est bien plus vrai pour nous. Je me rappelle d'une histoire qu'une religieuse nous avait racontée, parce qu'elle avait une nièce qui était handicapée, n'est-ce pas, mongolienne. Elle ne pouvait même pas parler. Et alors, voici que vers l'âge de 16 ans, cette petite décède à l'hôpital. Elle va mourir. Donc elle est présente, elle sort du couvent, elle est là. Et ce jour-là, dans la salle, il y avait des médecins, des infirmières, de la famille, puis elle était là aussi. Et cette petite fille, enfin, c'est une adolescente, hein, elle avait 16 ans, cette petite, au moment où tout le monde se plaignait d'une destinée aussi difficile, d'une existence aussi peu souhaitable, si je puis dire, n'est-ce pas, en disant nous sommes normaux. D'un seul coup, il y avait la prière de l'attente, n'est-ce pas, alors, d'un seul coup, cette petite s'est redressée sur son oreiller, avant de mourir, elle les a gardés tous, les médecins, les infirmières. Et elle a commencé à parler d'une voix claire, distincte. Et elle leur a expliqué, en propres termes, « Vous me regardez comme si je n'étais rien. En vérité, c'est vous qui n'êtes rien. Parce que le regard que vous posez sur nous, les handicapés, est tellement superficiel que vous ne pénétrez pas jusqu'à la profondeur de ce que nous vivons. Et figurez-vous que moi j'ai reçu le baptême. Et depuis que je suis, bien sûr, je suis handicapé, bien sûr, je ne peux pas parler, bien sûr, que je suis handicapé mental, bien sûr. Mais, en fait, si vous saviez ce que je vis à l'intérieur, je jubile, je m'écoule dans la très sainte Trinité. Je vis des trois personnes divines distinctement. Tandis que vous ne savez même pas que Dieu existe. Vous êtes bien pire que ceux qui vous paraissent le plus néant à vos propres yeux. C'est beau comme témoignage. Puis elle s'est rallongée sur son oreiller et puis elle s'est endormie dans la mort. Elle a fait c'est une belle leçon, je trouve. Quand la sœur est revenue, elle nous a raconté ça. C'est très intéressant, c'est beau le témoignage de cette petite sœur religieuse parce qu'elle nous indique que le corps est véritablement déformé. Et cette déformation qui est la nôtre déforme aussi la signification qu'il a. Bien sûr, si notre corps nous paraît normal à nos propres yeux, à nous, si on se trouve beau, eh bien, il faut savoir que notre corps, en vérité, n'est pas beau. Et d'ailleurs, on le sait très bien, puisqu'il y a la honte du corps. Il y a la pudeur du corps. Il y a la sexualité dans le corps. Il y a la concupiscence dans le corps. À cause de tout ça, comme l'a expliqué le pape Carole, à cause de tout ça, à cause du péché originel, à cause de ce handicap profond de l'unité de la différenciation sexuelle et de notre oui dans la liberté innocente originelle du don, à cause de cette rupture, nous avons cette honte et du coup nous ne regardons plus, nous ne voyons plus le corps que de l'extérieur. Ou en tout cas il nous est devenu quasiment, pour pas dire très difficile, pour ne pas dire impossible, moi je dis impossible, de voir immédiatement la signification sponsale du corps. Pourquoi est-ce que spirituellement mon oui s'exprime à travers ce fait que je suis masculin ou féminin? Le fait que je sois souvent, je vous assure, c'est vrai, j'ai moi été dans des universités en théologie, en philosophie, tout ça. J'ai quand même étudié un tout petit peu, pas beaucoup, mais enfin un peu, j'ai regardé un petit peu, à droite à gauche, je sais pas. Et ce qui... beaucoup moins que certains, c'est évident. Bon, mais, j'en ai pas fait une folie, vous savez, bon. Enfin, quand même, dans l'ensemble, si vous voulez, l'humanité considère que la sexualité, c'est quelque chose d'extérieur à l'homme. C'est incroyable de dire ça. On fête aujourd'hui Sainte Thérèse d'Avila. L'union transformante, le mariage spirituel, même le mot fiançailles, mariage, heureusement, est là dans Sainte Thérèse d'Avila. Heureusement qu'il est là. Mais sinon, le processus de perfection par la transformation surnaturelle de la grâce apparaîtrait, d'après les auteurs, qui ne font pas attention, qui ne regardent pas, qui ne scrutent pas les Écritures, parce qu'ils ne voient même pas ce qu'ils sont eux-mêmes. Il apparaîtrait, d'après ça, que ce soit à peu près le même processus pour l'homme et pour la femme. L'union transformante est du même type, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Mais les auteurs, vous voyez, les philosophes comme les théologiens et les mystiques aussi, souvent, eh bien, considèrent, ou ont considéré, ou n'ont pas voulu, ou n'ont pas pu considérer que les choses métaphysiques, les choses dans de la grâce, de l'ordre surnaturel, se manifestent à travers la différenciation sexuelle. Ou à travers la signification sponsale du corps. Assieds-toi, Christelle.
Non.
Alors, ce que nous voulons regarder aujourd'hui, c'est... On avait vu la première méditation, ce qu'on avait regardé. On avait regardé une chose. On avait regardé que le fait que Dieu nous crée homme ou femme, masculin ou féminin, il nous crée à son image et à sa ressemblance. Et pour que nous soyons à son image et à sa ressemblance, il nous crée masculin et féminin. Nous avons vu ça la première fois. Et très curieusement, il crée les animaux masculins et féminins parce que nous sommes masculins et féminins. Et non pas parce que lui est masculin et féminin. Parce que la signification de la masculinité et de la féminité n'a strictement rien à voir dans l'homme et dans l'animal. Ça n'a rien à voir du point de vue du fonctionnement, du point de vue de la lumière, du point de vue de la signification et du point de vue de l'image de Dieu. Rien. C'est ce que nous avons vu la première fois. Je crois qu'on avait vu ça. Quand si nous sommes masculins et féminins, c'est parce que lui, il est époux et épouse avant de créer toute chose. Et c'est deux personnes qui se conjoignent pour produire ce, la personne dans laquelle elles disparaissent, c'est-à-dire la troisième personne, le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il nous crée masculin et féminin, pour qu'à travers le corps, en présence de Dieu, dans la fulgurante lumière de la grâce, dans la présence de la très sainte Trinité de la grâce originelle, dans un corps qui n'est pas aveuglé, dans un corps qui n'est pas blessé, dans une âme qui n'est pas meurtrie par le péché originel, nous puissions voir immédiatement que si nous sommes masculins ou féminins, c'est parce que nous sommes l'exacte duplication de la très sainte Trinité. Dès lors que nous sommes dans la communion des personnes, par la signification sponsale du corps, l'homme n'est pas fait pour lui-même. C'est la première signification de la sexualité, ça. L'homme n'est pas fait pour lui-même. Aucun d'entre nous, nous ne sommes faits pour nous. Moi, je suis pas fait pour moi. Je n'ai pas été créé pour moi. Personne n'a été créé pour lui-même. Dieu lui-même, surtout quand il est établi en tant que personne à l'image de Dieu, la personne, elle, est toute entière disparue dans une autre. Donc elle n'est pas faite pour elle-même, elle est faite pour un autre. Le Père est fait pour l'époux, est fait pour l'épouse. Le Verbe de Dieu, qui est l'épouse, est fait pour est entièrement pour disparaître dans l'époux, dans le Père. Et l'homme est fait aussi pour, j'allais dire, disparaître dans l'unité, dans la plénitude de son humanité. Et la plénitude de son humanité n'est jamais en lui-même. La plénitude de l'humanité est dans une humanité intégrale où il disparaît avec la plénitude de celui qu'il reçoit comme don, qu'il accueille, et avec lequel il disparaît pour produire une humanité intégrale toute divine. C'est la signification de la sexualité, ça. Celui qui ne perçoit pas sa sexualité, surtout lorsqu'elle est en activité, si je puis dire, lorsqu'elle se met en acte. Hein. La signification sponsale du corps est en puissance. Elle n'est pas toujours actuée. Dieu soit loué, n'est-ce pas? Mais au ciel, elle sera toujours actuée. Il ne faut jamais oublier ça. C'est ce que dit Jésus. Il n'y a plus ni homme ni femme au ciel. Ça veut dire que la signification sponsale du corps sera éternellement actué, en acte, ouais, avec le péché originel, ouais, on ne peut pas faire ça. Ça veut dire qu'on sera entièrement disparu grâce à la gloire de la sexualité glorifiée en nous. Vous voyez, par la pleine présence de la sponsalité des personnes divines, on sera pleinement dans l'accueil de l'autre, qui lui-même sera pleinement abandon dans le don que nous faisons, dans la réciprocité du don, dans cette unité dont nous avons parlé la deuxième fois. Et tellement actué, tellement en acte, que du coup, on sera plus ni homme ni femme, mais on sera perdu dans une identité qui, si je puis dire, est tellement issue d'une pleine communion que, comme pour le Saint-Esprit, il n'est ni époux ni épouse, il est Dieu dans la passivité d'un amour dont il fruit, dont il jouit, si je puis dire, substantiellement, simplement et parfaitement. Et donc, quand la signification sponsale du corps est toute glorifiée, elle sera glorifiée précisément dans ce mariage spirituel glorieux. C'est pour ça qu'on sera quelque part, voyez, nous aurons encore, bien sûr, notre corps tel qu'il est, on se verra tel qu'il est, on va voir la Sainte Vierge, Saint Joseph, Jésus, il est masculin. Mais on ne peut pas séparer Marie et féminine, c'est évident, c'est clair. De même, le Verbe de Dieu est féminin, le Père est masculin, il est époux, n'est-ce pas? Et nous, on sera masculin et féminin dans la gloire de la résurrection. C'était pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est pas grave. C'est pour faire comprendre. Parce qu'on comprend les choses par la fin, vous savez. Notre sexualité se comprend par la cause finale. Parce que c'est une structure d'amour. bien sûr qu'on sera. Mais vous ne pouvez pas penser, vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas toucher Jésus. Vous ne pouvez pas toucher Jésus au ciel sans qu'il soit pleinement dans son unité sponsale avec la nouvelle ère. C'est ce qu'on avait vu dans l'Apocalypse. La gloire du Christ ressuscité, c'est l'Assomption. Et les deux sont tout ça, c'est une espèce de tourbillon d'épousailles, de mariages glorieux, qui fait qu'on passe d'une épousaille à une autre, d'une sponsalité à une autre, et à chaque fois elle est glorieuse. Alors on pensait bien que notre sponsalité est un acte. Et jamais au ciel on va se dire, ah, mon Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je me trouve un peu seul. Où est ma moitié sponsale? Au ciel, il n'y a pas ça. Mais pourtant, notre corps sera pleinement actué dans l'unité sponsale glorieuse, avec Jésus, avec la Jérusalem céleste, avec le Verbe de Dieu. Que ce soit des personnes divines, que ce soit des gloires, des personnes qui sont la gloire incarnée, ou que ce soit, vous voyez, ressuscité, qui a un corps humain ou qui n'a pas de corps humain, de toute façon, on sera comblé. Et donc, notre sexualité sera complètement actuée. Et donc, on vivra d'une humanité intégrale. On vivra autant de la féminité glorieuse que de la masculinité glorieuse. L'enveloppement sera différent, c'est sûr. Dans un cas, c'est l'abandon qui prédomine et le don. Dans l'autre, c'est la caille et l'unité qui domine. Et au ciel, ce sera pareil. Voilà. Donc, on en était là. La dernière fois, on avait vu justement un petit peu tout ça. On avait un petit peu regardé tout ça. Et on avait vu surtout, on avait lu Sainte Anne-Catherine Emmerich, la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, pour voir comment elle voyait Adam et Ève, le premier homme, la première femme, avec cette bénédiction. Cette bénédiction qui fait que dès le départ, les énergies de la femme sont présentes dans le corps de l'homme. Et que la femme est là pour receler les énergies de l'homme et lui donner sa plénitude. Alors, justement, je voulais compléter ce qu'on avait dit la dernière fois avec Saint Hildegarde que vous connaissez. Mais c'est un petit rappel, parce que c'est trop beau. C'est pour compléter ce que nous avons dit la dernière fois. Quand Dieu considéra l'homme, il lui plut beaucoup. Ne l'avait-il pas créé à sa ressemblance et selon la texture de son image? À l'homme de proclamer par l'instrument de sa voix de raison, la totalité des merveilles divines. C'est que l'homme est la totalité de l'œuvre divine. Et Dieu est connu par l'homme, puisque Dieu a créé par l'homme toutes les créatures. Et puisqu'il lui a accordé dans le baiser du véritable amour, et par la raison, par la contemplation, de le célébrer et de le louer. Mais il manquait à l'homme une aide qui lui ressembla. Dieu lui donna cette aide dans le miroir qu'est la femme. Celle-ci recela ainsi tout le genre humain qui devait se développer dans l'énergie de la force divine. La femme est le miroir de l'homme. Donc Dieu, vous voyez, avait produit ce premier homme dans l'énergie de la force divine. Et la femme, elle est le miroir de cette énergie, de toutes les forces divines recelées, qu'elle recèle en elle, pour receler à travers cette réception, ce miroir, cette considération, cette contemplation de ce qu'elle est elle-même, tout le genre humain qui devait se développer dans l'énergie de cette force divine. Ça, c'est la signification sponsale. Si à travers ma féminité, je ne perçois pas que je suis capable, en m'abandonnant, de faire produire tout le genre humain dans toute l'énergie de toute la force divine recelée dans la création, c'est que je ne connais pas mon corps féminin. Et La sexualité, au fond, la différenciation sexuelle, si vous préférez, est inséparable de la vie contemplative, est inséparable de la grâce, est inséparable du rayonnement créateur et glorieux de Dieu dès cette terre. Très important ça. Ça explique, hein. Ça explique pourquoi c'est, il est devenu impossible de vivre de l'union, la communion des personnes à travers le corps différencié sexuellement sans la grâce, sans la plénitude de la grâce, sans la substance de la grâce, sans la grâce dans son actuation, dans sa plénitude de perfection. Voilà pourquoi il faut le sacrement de mariage. Ainsi, hommes et femmes se joignent-ils pour accomplir mutuellement cette œuvre qui est la leur, car l'homme sans la femme ne serait pas reconnu comme tel, et la femme sans l'homme ne serait pas reconnue comme tel par Dieu. La femme est l'œuvre de l'homme, l'homme est l'instrument de la consolation féminine, et les deux ne peuvent vivre séparés. C'est un beau texte de Saint Hildegard, ça, très beau. Et il faudrait prendre, c'est tellement rare, il faudrait prendre un Jules de Foligno, il faudrait prendre beaucoup de mystiques comme ça, parce que dans la mystique, si vous voyez tous ceux qui sont passés par le mariage spirituel, il y a des étincelles de ce que le pape Carole a voulu nous soulever comme voile pour le troisième millénaire. Nous sommes la première génération, il ne faut pas l'oublier, nous sommes la première génération de l'humanité à pouvoir retrouver la signification responsable du corps depuis le péché originel. On est la première génération. Je viens de vous l'expliquer, avant le pape Carole, la signification responsable du corps n'existait pas. Enfin, elle existait, mais elle n'était pas mise à jour par le magistère infallible. Vous voyez ? Même si c'est un discours du mercredi et que ce n'est pas un dogme, bien sûr, mais n'empêche que c'est quand même le magistère ordinaire, universel du Christ sur la terre qui a ouvert l'ère de la signification responsable du corps. La sexualité, à partir d'aujourd'hui, ne peut plus jamais être vécue de la même manière que nos parents, nos grands-parents. Non. Ça ne peut plus, c'est fini. C'est terminé. L'ère de la sexualité freudienne est terminée. C'est l'enterrement de première classe de Freud. Il n'y a pas de libido. La libido n'existe pas. Parce que les énergies de la force divine, laïcisées par Freud, ça donne la libido. Vous voyez ? Vous rendez compte ? Les énergies de la force divine, c'est à l'intérieur de la création, celle qui crée l'univers. Les énergies de la force divine. Je ne sais pas si vous voyez la déchéance de la vision de l'homme sur le complexe de castration. Oui, nous avons été castrés quelque part de cette énergie de la force divine qui doit s'exprimer dans l'énergie de l'homme et dans l'œuvre de la femme qui recèle toutes les énergies de l'homme pour donner à tout le genre humain cette énergie de la force divine. Alors, ce qu'on avait vu la première fois, c'est qu'il faut donc retrouver, surtout dans ces moments d'oraison, de solitude, dans le mariage spirituel, à chaque fois qu'on fait oraison, il y a un mariage total. Hein. C'est toute la création étant emportée avec moi dans toute sa gloire de Dieu, emportée même dans toute la gloire du Verbe de Dieu, qui lui-même dans toute sa gloire est emporté dans le Père, qui lui-même, et tous les deux disparaissent, sont emportés dans toute leur gloire, dans l'Esprit Saint. Et je sais ça dans l'oraison. Je vis de ça dans l'oraison. ce quintuple mariage que je vis dans leur raison, continuellement. Si je pense à autre chose, oui, je reviens à la spontanéité du mariage spirituel. Je dois faire oraison tous les jours. Une fois que je fais oraison, je suis seul avec Dieu. Je découvre la signification sponsale de mon corps dans cette oraison. Ce n'est pas le but de l'oraison, mais n'empêche que je fais ça avec tout mon cœur, toutes mes forces, tout ce que je suis. Et cette solitude, du coup, qui est la mienne, devient une solitude vivante, devient une solitude habitée, devient une solitude virile, si je nomme. Elle devient une solitude de fiançailles et de mariage. Et donc, je ne suis plus seul dans l'oraison, c'est vrai. Si je dis ça, je vais découvrir petit à petit ce que c'est que la signification spontanée de mon corps dans la solitude. La solitude est une des grands moments qui me permet de découvrir de l'intérieur pourquoi je suis masculin ou féminin. Et surtout mon corps, ça permet de découvrir à l'intérieur de mon corps cette capacité qu'il a d'être récepteur, diffuseur, à l'infini, de l'union avec Dieu. Sans la sexualité, le mariage spirituel de l'oraison ne serait pas possible. Il n'y aurait pas de fils. Il n'y aurait pas de sixième demeure. Il n'y aurait pas de septième demeure. Et vous voyez, quand vous êtes, comme c'est arrivé à chacun d'entre vous, je suppose, puisque vous faites tous l'oraison, donc, depuis au moins 9 mois. Donc vous êtes arrivés tous, presque, quasiment au sommet. Bon, alors, du coup, il n'y a pas de problème. Vous voyez, quand vous prenez, par exemple, je ne sais pas moi, hop, ça y est, vous êtes pris par Jésus, par du dedans, vous êtes pris en extase. Toutes les énergies de la force divine vous ont emporté. Et vous avez fait attraction de l'univers. L'univers n'existe plus pour vous. Pourquoi? C'est pas qu'il n'existe plus, c'est qu'il est tout à fait intégré. L'amour de Dieu, ça peut aspirer tout l'univers en vous. Vous êtes pris dans l'extase. Et à ce moment-là, vous comprenez que, je sais pas, moi, Angèle de Foligno, dans son extase, elle est pleinement féminine, vous voyez. Son extase est lumineux, son extase, son rapt, si je puis dire. Il n'est pas glorieux pourtant, mais pourtant elle est limpide, elle ne fait plus aucune différence entre l'extériorité de son corps féminin, le fait qu'elle ait des rondeurs, tout ça, et l'intériorité de son corps féminin remplie de sa puissance d'énergie dans le rapt qu'elle est en train de vivre. Dès lors que je retrouve la signification sponsale de mon corps féminin ou de mon corps masculin, d'ailleurs c'est pareil, je ne fais plus la différence entre l'extérieur et l'intérieur du corps masculin ou féminin. Le corps, dans son extériorité, est ce que les énergies divines font voir du corps dans son intériorité. Et plus exactement, vous voyez, s'il n'y avait pas eu le péché originel, vous voyez, on est tous des Christelles, handicapés, ça c'est certain. Il faut prendre conscience de ça à ce niveau-là. Parce que du coup, ça oblige de retrouver son corps dans sa dimension de différenciation sexuelle. Vous voyez, on ne fait pas n'importe quoi. On n'utilise pas cette matière divine n'importe comment. On fait très attention. Et on va s'apercevoir, avec la grâce de Dieu, que c'est la solitude qui structure profondément le cœur humain. Parce que du coup, elle fait que, si elle est habitée, elle fait que je suis appelé à être en rapt, à être emporté dans quelqu'un d'autre. C'est plus moi qui vis ce... Et si j'avais pas... si je n'avais pas cette capacité, vous voyez, d'absorber toute la création, si je puis dire. Du point de vue de la lumière, c'est vrai, hein. C'est vrai que du point de vue de la matière, non. Mais du point de vue de la lumière, j'absorbe toute la création, et je l'absorbe réellement, hein, quand je suis dans un état de gloire, hein. Et d'être emporté dans un autre que moi. C'est important, ça, hein. Et c'est pourquoi on avait vu la dernière fois qu'on était vraiment fait pour, deuxièmement, faire oraison, deuxièmement, pour vivre d'amour, et dans l'amour, de considérer que la véritable lumière de mon corps masculin ou féminin, elle se trouve dans l'unité. Elle se trouve dans l'unité. Alors, très, très, très rapidement, on avait dit, la dernière fois, ne vous tâtez pas le pot pour dire, oh là là, où est ma moitié sponsale? Qui est ma moitié sponsale? Je suis la moitié sponsale de qui? Vous vous tâtez pas le pouls, premièrement, vous regardez par vous-même. Deuxièmement, vous cherchez pas un autre qui est votre moitié sponsale que vous-même. Ne cherchez pas, c'est pas la peine. C'est pas comme ça que vous le trouverez, parce que vous le trouverez si vous avez la lumière. Et la lumière, elle se trouve justement dans l'unité. Et l'unité se trouve précisément ni dans l'un ni dans l'autre, mais dans l'humanité intégrale qui émane de l'unité des deux. Alors, si je veux aimer quelqu'un avec mon corps, il faut que je rentre, j'allais dire, dans les lumières incarnées, hein, métaphysiques, hein, et réelles, tout à fait existent, hein, de mon unité sponsale totale, où j'ai disparu avec ma moitié sponsale, qui elle-même y a disparu. Et avec ça, effectivement, je glorifie Dieu. T'inquiète pas, l'attraction se fera. Si dans la solitude, la création tout entière est aspirée, dans le mystère de l'unité, si je vis dans la lumière de l'unité sponsale, dans la lumière de l'unité et de la signification sponsale de mon corps, ma moitié sponsale viendra à moi, et moi, je viendrai à elle, comme deux aimants, c'est normal, mais c'est second, ça. C'est ce que nous avons vu la dernière fois en regardant la jeunesse. Maintenant, nous avions dit qu'il faudrait regarder la question de la nudité, mais voyez bien que cette fois-ci, on a parlé un petit peu de la nudité. La nudité, c'est si je vis pleinement de cette transformation de toutes les énergies divines dans mon corps à travers le fait que je sois masculin ou féminin. Si je le vis dans l'unité totale et dans ce qui émane de cette unité, parce que je me donne aveuglément à celui qui m'est à ma moitié sponsale. Ma moitié sponsale, c'est en premier, c'est Dieu. Hein. C'est Jésus. Hein. À ce moment-là, je vis pleinement de cette unité. Je suis dans lui et lui dedans moi. Et lui a disparu, moi aussi. Et c'est l'unité des deux. C'est ça qui fait resplendir, vivre, qui anime de l'intérieur, qui illumine, vivifie, imprègne toutes les chromosomes XX ou XY de ma masculinité ou féminité. Et je retrouverai, avec la grâce de Dieu, la pleine connaissance de l'innocence originelle de mon corps, de masculin ou féminin. Et cette pleine connaissance, si je n'y accède pas entièrement, eh bien, par la foi, je peux quand même compléter ce que je n'arrive pas à produire comme lumière, comme transformation, comme réparation, comme guérison. Et je peux bien sûr vivre dans la foi, dans l'espérance, dans l'amour, et non pas dans l'imagination, mais dans l'esprit, cette nudité du corps. Il faut que je voie le corps tel qu'il est. Il faut que je voie le corps d'un autre que moi, tel qu'il est. Il faut que je regarde le corps de Marie, le corps de Jésus, le corps de celui que Dieu met proche de moi. Il faut que je le regarde tel qu'il est. Le corps de Jésus est habité, qu'est-ce que vous voulez? La masculinité de Jésus, vous ne vous imaginez pas quand vous êtes en union avec Jésus, regardez le corps de Jésus dans sa nudité extérieure. En disant, ah oui, il est masculin, ah ben oui, tiens, la preuve, c'est qu'il a l'organe, ça ne vous viendrait pas à l'esprit. On ne regarde la masculinité du Christ que de l'intérieur. Si on aime quelqu'un, on ne regarde sa sexualité que de l'intérieur de cette sexualité. On ne la voit pas. La nudité La nudité n'est pas un obstacle à celui qui aime. Avec les énergies de la force divine, il ne la voit pas. C'est pas qu'il ne la considère pas, c'est qu'il ne la voit pas. Il voit la sexualité physique, mais de l'intérieur, de ce qui illumine lumineusement l'intérieur de ce corps sexuel, masculin ou féminin. Oui. Alors, c'est à cause de ça. Oui, oui. Vous pouvez rentrer si vous voulez. Hein, c'est
pas... J'aurais une question à vous poser.
Ah, oh.
Excusez-moi, j'ai un bureau. On cherche Paul Dominique. Il a disparu depuis 11h30 du matin.
Il n'est pas venu ici. Bon. Que tu me dises, Paul Tournier. Où est-ce que vous en étiez? Alors, bon, est-ce que vous comprenez que la question de la nudité, de la signification sponsale du corps, c'est quelque chose de très important. La nudité, ce n'est pas qu'aujourd'hui nous ne puissions pas y accéder. Nous accédons à la nudité par l'extérieur. Mais ce que le Saint-Père dit, et ce qu'il propose comme voie d'accès, c'est d'y regarder avec le Christ, avec Jésus, avec la rédemption. Avec votre liberté originelle dans cette solitude d'union totale avec Dieu. On va pouvoir retrouver la liberté instinctive du don sponsal à l'autre. Parce qu'on ne verra plus la nudité de l'extérieur, mais on la saisira vraiment de l'intérieur. Parce que si on la saisit de l'intérieur, à ce moment-là, Dieu est mis à nu. Si je peux dire. Et la signification originelle de la nudité au paradis terrestre, dans la création de Dieu, c'est ça. C'est que si on est masculin ou féminin, le signe de cette masculinité et de cette féminité est un signe d'une présence vivante de Dieu. Et c'est pas seulement un signe, c'est qu'il est en même temps une porte. Il y a, comment dire, une force de pénétration, selon le cas, n'est-ce pas, qui me permet de voir de l'intérieur cette présence vivifiante de Dieu, qui est époux et épouse, qui est communion des personnes. Alors vous allez me dire, oui, ça c'est de la théorie. Alors évidemment, c'est ce que dit Saint-Père, attention, il ne faut pas se l'imaginer. Parce que si vous vous imaginez rentrer en unité sponsale avec le cas, n'est-ce pas, ou avec Jésus, ou avec... Il ne faut pas se l'imaginer, parce que si on passe par la médiation de l'image, ça y est, on échappe à la contemplation effective du corps. Si on essaie de se l'imaginer, on va faire une espèce de métapsychique du corps, on va faire une espèce de magie sexuelle. Il ne faut surtout pas que ce soit avec l'imagination. On ne s'imagine pas. On sait que c'est comme ça. On sait que le Christ nous restaure. Et on en fait l'expérience. Mais on ne cherche pas à le voir. On sait. On comprend. On sait que c'est la vérité. Et que la vérité du corps, c'est que sans le corps, je ne peux pas me donner à l'infini. Voilà ce que l'ange ne peut pas faire. Il a une vastitude sans limite, mais il ne peut pas se donner à l'infini, parce qu'il n'est ni masculin ni féminin, et il n'a pas de corps. Et la signification sponsale du corps, c'est ça. Donc à un moment donné, il faut que je rentre dedans. Je sais que c'est ça. Et du coup, je n'use plus de mon corps comme d'une libido. Je méprise l'instinct. Mais je me fortifie et je me baigne dans les énergies de la force divine qui illumine de l'intérieur ce qui fait vivre de l'intérieur mon corps masculin. Et comment je fais? Eh bien, c'est tout simple. Il suffit que je reçoive ma moitié sponsale. Par exemple, supposons que ce soit ma fiancée, n'est-ce pas? Je la reçois Mais je reçois aussi, vous savez, il y a une relation entre un père et sa fille. Il y a une relation de type sponsal aussi, hein. C'est le même type, hein, entre le père et sa fille, entre le fils et sa mère aussi. Il y a quelque chose qui est analogue. Et c'est vrai, la mère, elle n'est pas masculine, et le père et le fils, il n'est pas féminin, donc il n'y a pas de doute. Donc, je peux recevoir, regardez, il y avait tout à l'heure cette petite Christelle qui était là. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de merveilleux que de pouvoir voir, elle s'appelle Christelle. Elle, c'est Dieu voit. E-L, Dieu voit. Et Christ, Dieu voit le Christ. Voilà la signification de cette petite qui fait... De l'intérieur, vous voyez, un petit peu comme ma mongolienne de dont je vous parlais tout à l'heure. Et toi, tu peux très bien recevoir, parce que le Christ, vous voyez, tout à l'heure on adorait le Saint-Sacrement. Et moi j'aimais bien, hein, l'entendre comme ça. Moi j'aimais bien parce qu'on avait Jésus ici, et on avait Jésus qui se baladait, quoi. Et les deux étaient ensemble. C'est Dieu voit que c'est le Christ. Dieu voit que c'est le Christ. Dieu voit que c'est le Christ, vous comprenez? Et alors, c'était trop beau. C'était trop beau, moi j'aimais bien. Enfin, c'était parfaitement clair. Alors, est-ce que je suis capable, avec le Christ, justement, de rentrer dans la signification sponsale de ce corps déchiré? Est-ce que je suis capable de voir le Christ qui se donne entièrement à elle et elle qui est entièrement appelée à la gloire? Puisque la gloire est proportionnée à l'amour dans la pauvreté. Et est-ce que si je ne suis pas bien dans la signification sponsale de mon corps, je ne peux pas voir ça? Vous voyez? De plus en plus, il faut voir, par exemple, dans cette petite Christelle, qu'est-ce qui habite de l'intérieur la signification sponsale de son corps féminin. C'est une femme, hein. C'est une jeune femme. Est-ce que je peux le voir, ça? Est-ce que je peux l'accueillir au-dedans de moi? Est-ce que je peux faire communion totale avec elle pour vivre de l'unité des deux? Si je suis un père, si je suis un frère. C'est beau quand même de fonctionner à partir de l'unité, à partir de la solitude habitée, à partir de l'unité. À ce moment-là, tout est à nu devant Dieu. Et je vois que Dieu est là. C'est ça, la nudité. On a été fait grâce à la signification sponsale du corps masculin et féminin pour permettre la vie contemplative. Et vous voyez, on parle de ça au jour de Sainte Thérèse d'Avila. La vie contemplative, surnaturelle, n'est pas possible en dehors du mariage spirituel. Elle n'est pas possible en dehors de la féminité, de la masculinité. Si bien que, vous voyez, si je veux réaliser la messe sponsale, l'unité sponsale, avec celui que Dieu m'a mis proche de moi dans le mariage, par exemple, à travers un sacrement, à ce moment-là, ça jette une lumière incroyable sur la manière de vivre de l'union des deux, de la communion des personnes, de la communion totale des personnes. Parce que, évidemment, qu'on ne va pas se prendre de l'extérieur, on ne va pas se recevoir de l'extérieur, on ne va pas s'abandonner de l'extérieur, et on ne va pas s'accueillir de l'extérieur, mais on va se donner dans l'unité de l'union transformante du mariage spirituel surnaturel, vous comprenez? À ce moment-là, je vais apprendre à recevoir ce qui, de l'intérieur, vivifie et sanctifie l'intérieur du corps de l'autre, et donc de toute la personne, dans son union avec Dieu. C'est ça avec quoi je suis marié, quand je suis marié avec quelqu'un. Alors je vais habiter. Ouais, vous connaissez l'idée, c'est vous mélangez du jaune avec du bleu.
Voilà.
Mais voyez, il faut mettre le jaune dans le bleu. Ou plus exactement, il faut que le bleu accueille dans son centre le jaune. Alors, du coup, le jaune illumine le bleu. Et c'est dans son centre, comme un filament, évidemment, il fasse du centre. Et du coup, ça devient du vert. Ouais. Mais si je reçois l'autre et que je l'accueille uniquement dans l'extériorité du corps, il n'y a pas de vert. Absit, en latin ça veut dire absent. Il n'y a pas de vert, il n'y a pas d'unité sponsale. C'est de l'intérieur, donc je vais apprendre dans la nudité à voir, à repérer ce qui illumine de l'intérieur, la lumière vivante qui anime l'intérieur du corps sponsale. Et c'est dans toute la personne, dans son union avec Dieu. Je vais le voir et je vais l'assumer. Je vais l'assumer, je vais l'accueillir, je vais l'accepter, je vais le prendre pour moi-même, et du coup ça va illuminer la signification sponsale de mon corps à moi, et l'animer, le vivifier. Voilà comment le Saint-Père le disait, je vous avais dit que je vous lirai le passage. Pour réaliser comment, avec la solitude, avec ce corps vivant, avec un corps vraiment humain, avec un corps réveillé, avec un corps réilluminé, revivifié, recréé par Jésus, retransformé par la grâce, qui retrouve toute sa puissance sexuelle sponsale, alors à ce moment-là, sinon c'est de l'impuissance sexuelle sponsale, eh bien, la véritable impuissance en fait. Eh bien, comment se réalise le don, l'échange du don et de l'accueil? Ceci est vrai dans notre union, dans l'unité totale et plénière avec Jésus, mais elle est vraie aussi dans notre relation avec notre prochain. Je vous le lis, 6 février 80, sinon vous ne le lirez pas alors. La volonté, c'est-à-dire le choix de l'amour total, plénier, étant innocente, quand votre amour, votre choix d'amour total est animé par cette innocence vivante d'origine. Alors, se trouvera facilité l'échange du don du corps selon la masculinité et la féminité, comme don de la personne. Facilité. C'est l'innocence de l'expérience réciproque du corps qui inspire l'échange intérieur du don de la personne. Je répète ça. C'est l'innocence et la pureté virginale, d'innocence originelle, dans la plénitude de la liberté d'innocence originelle du don du corps qui est le nôtre. C'est cette innocence de l'expérience réciproque du corps, qui inspire l'échange intérieur du don de la personne. Si je ne fais pas l'expérience, par la grâce, mais par l'effort, par la chasteté, par la virginité, par la transformation, par la connaissance aussi, de l'innocence intérieur qui vivifie la plénitude du corps de l'autre de l'intérieur, en même temps que moi, c'est cette innocence de la connaissance réciproque qui inspire la capacité de me donner dans le don et dans l'accueil du don avec un corps masculin et féminin. C'est l'innocence de l'expérience réciproque du corps qui inspire l'échange intérieur du don de la personne et qui réalise comme personne dans le rapport réciproque la signification sponsale du corps masculin et féminin. C'est génial. Mais si je ne suis pas virginale, si je ne suis pas chaste, bon, on peut le reprendre avec les vertus, c'est plus, on comprendra mieux. À ce moment-là, comment est-ce que je vais... Je bute toujours sur la libido, sur mon instinct, sur mon insatiabilité. L'instinct, c'est l'homme. L'insatiabilité, c'est la femme. Bon, voilà, c'est le pape qui dit ça, c'est pas moi. Bon. Si si, petit à petit, j'ai cette qualité intérieure du corps, liée au cœur, liée à l'amour. Alors à ce moment-là, je perçois de l'intérieur ce qui fait vivre toute ma... toute l'incarnation vivante, intérieure, lumineuse, de l'intérieur de mon corps masculin ou féminin. Facile ça à comprendre quand même. Cette innocence intérieure, rectitude d'intention, pureté du cœur, consiste à pouvoir accepter réciproquement l'autre en correspondant à l'essence même du don. L'autre est un don pour Dieu. L'autre est don de Dieu à cet autre. L'autre est don de Dieu à moi-même. L'autre est un don de Dieu pour la création. Je reçois comme étant un don, un cadeau. Ouais, je pense cadeau en pensant à Christelle. Un cadeau. Parce qu'il y a beaucoup humainement dire mais c'est une catastrophe, c'est un désastre. Non, non, c'est un don. Alors, je recommence. Cette innocence intérieure, rectitude d'intention, pureté du cœur, consiste à pouvoir accepter réciproquement l'autre en correspondant sans tricher à l'essence même du fait qu'il est un don. C'est Dieu qui se donne. C'est Dieu qui se donne. C'est pour ça que je ne peux pas faire n'importe quoi. Parce que dans le corps, le lieu le plus sacré, c'est la différenciation sexuelle. Vous avez compris ça. Le lieu le plus sacré du corps, c'est la différenciation sexuelle. C'est le lieu le plus sacré. Donc les actes les plus sacrilèges, les plus ravageurs de haine de Dieu portent là-dessus. C'est normal. On le comprend. Ainsi, le don réciproque dans cette innocence d'accueil du don réciproque de l'autre comme étant don, c'est Dieu qui se donne à moi, et lui qui est donné à Dieu à travers moi, crée la communion des personnes. Si tu vis ça, ça y est, tu es en communion de personnes avec lui. La signification alors du don s'approfondit. Ben, l'amour, si on vit l'amour comme ça, cet amour-là ne peut plus diminuer. Il ne peut pas se corrompre. Cet amour-là ne peut pas se corrompre. Cet amour-là est pur. Cet amour-là ne peut que croître, s'intensifier. Cet amour-là ne peut pas diminuer. Cette communion des personnes, il n'y a pas de cause diminuante dans l'amour. Ça fait ça. Dans l'amour humain. Dans l'amour instinctif, oui, il y a une cause diminuante. On sait bien. La signification du don s'approfondit et sa dignité dans l'accueil exprimé de la nudité. Vous voyez, la nudité, je parle de la nudité intérieure, celle qui fait qu'on ne voit plus la nudité extérieure. Je répète, la signification du don s'approfondit et sa dignité dans l'accueil exprimé de la nudité réciproque. Ah oui ? C'est évident, de toute façon. C'est évident. C'est évident, écoutez, quand vous aimez quelqu'un, mais c'est un amour fou, spirituel, mais surprenant, divin, qu'est-ce que vous voulez, bah, c'est vrai qu'il n'y a plus de nudité, écoutez, quand même. Si, il y a une nudité, elle est mutuelle, elle est intérieure aux deux. Alors si je vis cette réciprocité, si c'est cette nudité-là que je vis, alors mon amour s'approfondit, s'intensifie. Et mon corps se construit dans la signification sponsale de son don pour la gloire de Dieu. Et pour la glorification de l'univers, voyez. Donc je continue. Dignité parce que Dieu, à l'origine, veut l'homme, homme et femme, pour lui-même. L'innocence est donc une participation morale à la perfection éternelle de l'amour de Dieu. C'est extraordinaire ça. Si vous êtes masculin ou féminin, si vous le vivez de l'intérieur, eh bien vous êtes une participation amoureuse, morale, 2. La perfection éternelle de l'amour de Dieu. C'est incroyable que l'on appelle une chose pareille. Hein? Freud est à 800 milliards de kilomètres. Ah, lui, il a dit, ah, oh, Sigmund, qu'est-ce que t'en penses, Sigmund? Ah, mais j'avais pas vu ça, hein. Ça, c'est vrai, avec ses lunettes, oh. Bah, faut dire que tout ce que j'ai vu, moi, c'est en pissant contre un arbre, c'est pas en lisant le livre de la Genèse. Alors, bon, le contraire de cet accueil de l'autre comme don serait une réduction de l'autre comme objet. C'est sûr. Le contraire, c'est que l'autre, bah, il me fait plaisir. Ça me fait du bien, je me sens mieux. Il faut quand même que je refasse ma vie, parce que sinon je me sens pas bien. Et lui, avec lui, ça ira mieux. Réduction de l'autre objet. Vous voyez, ça, c'est pas bien ça. Hein? Réduire intérieurement l'autre à un objet pour moi est le début de la honte. Et la honte correspond à une menace contre le don de soi dans son intimité personnelle, non seulement avec les autres, mais avec Dieu aussi. Donc celui qui rentre dans, dans une vie qui utilise, voyez, après tout je peux faire ce que je veux, on est libre, à ce moment-là, il s'interdit de pouvoir vivre par expérience le don de son intimité personnelle avec Dieu et avec quiconque autre personne, son propre fils, sa propre fille, sa propre épouse, sa propre épouse. Donc à l'origine, il n'y a pas de honte. Et donc il y a acceptation de l'autre, de l'intérieur, comme don de Dieu. Dieu se donne à moi, à travers lui. Et c'est Dieu qui donne l'image de son don, en me donnant cette image comme propre don. Et je l'accueille comme tel. Deux éléments donc. Il y a donner. Accepter le don. Une fois que j'ai accepté le don, je donne ce don à l'autre, qui lui-même vit dans l'unité de ces deux dons, et se redonne dans un nouveau don. Il s'approfondit donc, continuellement, comme dans un tourbillon. C'est ainsi que Ève, devant l'exclamation d'Adam qui la perçoit dans la signification sponsale de son corps comme don, se retrouve elle-même dans son propre don. Lorsqu'elle est acceptée telle qu'elle est, comme don de Dieu, selon le Verbe de Dieu, c'est-à-dire pour elle-même par Adam, selon sa féminité et à travers son humanité, c'est le premier temps. Elle se découvre dans son propre don comme don. Parce qu'elle est acceptée comme telle. Elle est reçue physiquement comme telle par Adam. Alors elle parvient du coup à la profondeur intime de sa personne et à la pleine possession d'elle-même. Et le fait de se retrouver dans la pleine possession d'elle-même, de se recevoir, de se découvrir grâce à l'acceptation, dans la pleine possession d'elle-même, lui permet de se redonner d'une manière, évidemment, avec la lumière de cette découverte qui approfondit et intensifie sa capacité de se donner et d'être à nouveau donné. Le fait de se retrouver elle-même dans son propre don est source d'un nouveau don d'elle-même. Au fond, la prise de conscience, voyez, la prise de conscience permet de produire en Adam l'ouverture d'un accueil plus profond, plus étonnant encore, plus éblouissant encore, de Ève, de la première femme. Déjà la première fois, c'est poli, mais dans un deuxième temps, ayant pris conscience du don qu'elle était elle-même dans l'acceptation de ce don par Adam, cette prise de conscience permet de se donner de manière cette fois-ci lumineuse et à partir de l'unité sponsale. Alors vous imaginez, avec le don de Dieu en personne, et du coup quand elle se redonne avec ce don-là, si Adam la reçoit comme telle à travers ça, eh bien c'est une extase pour lui. C'est un ravissement pour lui. C'est un cri nouveau pour lui. Et c'est une nouvelle acceptation pour lui. C'est une commotion pour lui. Et c'est une énergie pour lui pour pouvoir, réaliser la réciprocité du don. par laquelle il manifeste l'accueil de ce don. Dans un premier temps, l'homme est celui qui reçoit le don. C'est à lui d'assurer le processus de l'échange du don, de la compénétration réciproque du donner et recevoir en don, qui réalise l'authentique communion des personnes. Enrichi du don de la femme dans sa personne et sa féminité, de l'intérieur de lui-même, il s'enrichit encore en se donnant à elle à son tour, car il manifeste par là l'essence spécifique de sa masculinité, qui à travers la réalité du corps sexué, atteint la profondeur intime de la possession de soi, grâce à laquelle il est capable d'être accueilli par la femme à son tour comme don. Et lorsqu'il est accueilli par la femme à son tour comme don, elle l'accueille dans la révélation de l'essence intérieure et spirituelle de sa masculinité, en même temps qu'avec toute la vérité de son corps et de son sexe. Et l'homme se retrouve lui-même à travers ce don sincère de soi. Alors il est capable d'accueillir la femme d'une manière nouvelle et plus profonde encore. Et c'est ainsi que l'amour ne peut pas, à l'infini, ne peut plus s'arrêter d'augmenter. Mais ça, c'est une citation du pape, hein. Pape Carole, n'est-ce pas? Et c'est sûr que le corps n'est pas fait comme la femme. C'est sûr, donc, que c'est sûr que tout le corps féminin, de l'intérieur, mais de l'extérieur aussi, puisqu'il n'y a pas de différence dans la signification sponsale du corps, est fait en rondeur, vous voyez, je ne sais pas comment dire, c'est pas en rondeur, mais est fait en elle est faite pour être abandonnée. Elle est abandonnée. Elle s'abandonne. Mais attention, son abandon doit être pur, doit être transparent, doit être divin, doit être virginal, doit être limpide, doit être sponsale. Il doit être pleinement féminin, il doit être contemplatif. Alors à ce moment-là, vous voyez, c'est comme si elle portait l'éternité du don de Dieu. C'est pour ça que la femme est plutôt exprimée avec des rondeurs. C'est vrai. Et aussi avec un nid. Elle est accueil, de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est surtout l'intérieur, bien sûr. Et c'est surtout ce qui illumine de l'intérieur l'âme. L'âme, vous savez, c'est de la lumière vivante. L'âme qui vivifie de l'intérieur la féminité du corps fait d'elle une présence d'éternité, le don de l'éternité. Dans l'instant où la femme se donne, le temps s'arrête. Si elle est pure, si elle est transparente, si elle est virginale, si elle est divine, si elle est chrétienne, si elle est transformée, si elle est redevenue elle-même dans son propre don, voyez, l'homme, lui, qu'est-ce que vous voulez de l'intérieur, c'est l'énergie, c'est l'énergie de la force divine. La femme va évidemment dans l'habitacle de son corps féminin recevoir cette énergie, lui donner toute son expression. Elle est le nid de l'homme, elle est le miroir de l'homme, et l'homme se plonge dans ce miroir pour y trouver l'image ressemblance de Dieu qu'il est dans son corps, dans son âme, dans son esprit et dans sa liberté originelle et aussi dans sa gloire éternelle. Alors c'est pour ça qu'effectivement il y a dans la manière de fonctionner du corps, vous voyez, par exemple, quand on explique à, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le corps fonctionne très mal, hein, le corps sexuel, hein, la sexualité fonctionne très mal. Une femme, elle se donne, qu'est-ce que vous voulez. Si elle est pure, sa transparence rayonne, elle surabonde. C'est l'éternité, elle est le miroir du don éternel. Donc, mais si elle n'est pas pure, tout se ramasse en elle, il y a une régression sexuelle. Il y a une régression, alors du coup, ça fait, elle devient attractive. Vous voyez, elle essaie de séduire, d'attirer. ça que vous voyez qu'une femme n'est pas féminine, parce que... Et puis même de loin, c'est de l'intérieur souvent, hein. C'est son intention, hein. C'est l'intention intérieure, même si elle ne bouge pas. Hein. Son intérieur, à l'intérieur, elle dit, attends, celui-là, bon, hein, et même si elle ne le regarde pas, même s'il est à 50 mètres derrière, et elle le sent très bien si elle a accroché le mouvement, ne t'inquiète pas. Un homme, lui, il ne sait pas ce que c'est ça. Il ne sait pas. Un homme ne sait pas ce que c'est ça. Mesdames, je vous assure, l'homme ne sait pas ce que c'est ça. Il ne sait pas. Si, il le subit, quelquefois. Mais non, la femme qui est vraiment femme, dans la signification spontanée de son corps, si elle est pleinement féminine, à ce moment-là, sa pureté, sa transparence rayonne, elle se donne. Et s'il y a de la séduction, vous voyez, s'il y a cette espèce de télékinésie d'adolescente mal castrée, n'est-ce pas, bon, mal soignée par Freud, n'est-ce pas, bon, alors, c'est terrible parce que sa vie est foutue, quoi. Et c'est ça qu'on le reconnaît, voyez. Donc les formes intérieures lumineuses de la signification spontanée de la féminité ne sont pas pour rien. Pour l'homme et l'homme, c'est pareil. Alors évidemment, s'il y a une espèce d'aspirateur autour de lui qui aspire, alors évidemment, il y a une tendance à y aller, quoi, comme l'hippopotame. Mais la signification sponsale de l'hippopotame n'est pas la même que la signification sponsale du corps masculin. Ah, il est là, il décharge, je ne sais pas quoi, mais enfin, vous vous rendez compte, c'est horrible. C'est horrible de dire ça, c'est affreux. Mais n'empêche que, vous voyez, sur le plan même physiologique, il faudrait, quelquefois, quand on a des fiancés, on regarde l'interprétation symbolique de tous les mécanismes vivants de la finalité sexuelle du corps féminin puis du corps masculin dans son organisation, hein, tout simplement finalité naturelle, hein. On le regarde parce que ça c'est la porte à la découverte de la signification sponsale du corps. Donc le corps masculin il n'est pas du tout fait pour aller du dedans de l'intérieur vers l'extérieur, pas du tout. Du masculin, le corps, toute la sexualité masculine est faite pour au contraire intégrer, recevoir la pureté éternelle de l'instant prodigieux du don de la femme dans l'intérieur de son corps masculin. Vous vous rendez compte? Alors, la masculinité est fabriquée, si je puis dire, par Dieu, par le Créateur, par la nature, comme selon les lois de sa finalité naturelle, pour intégrer, pour recevoir, pour faire ce mouvement, j'allais dire, de concentration, de réception, d'accueil, d'un don qui va illuminer tout son corps. Et la semence, les énergies, qui va se manifester symboliquement par les énergies, elle va être entièrement prise, commotionnée, rassemblée, et pour produire la force de la lumière, de la signification spontanée de son corps masculin. Et c'est pourquoi d'ailleurs la semence n'aura jamais besoin de sortir. S'il est pleinement viril. S'il est viril, vous voyez, parce que ça ne marche pas du tout comme la vessie. Hein. La sexualité masculine ne marche pas comme la vessie. Ça ne marche pas comme la vessie. C'est une intégration. Donc, la signification spontanée du corps masculin, lorsqu'il est pleinement habitué, il intègre tout ce qui est masculin dans la lumière vivante et physique de son corps. Et du coup, il produit, et il est le réceptacle des énergies de la force divine. Il peut donc recevoir, d'une part, et se donner. Mais quand on reçoit, quand un homme... Mais tous les hommes ont fait l'expérience de ça, quand même, sauf les femmes. Lorsque vous avez une révélation sponsale, si je puis dire. Ouais, ça peut être une toute petite fille, vous voyez, qui se jette dans vos bras. Vous êtes vieux, vous avez 40 ans, une petite fille de 10 ans se jette dans vos bras. Ça vous est jamais arrivé? Jamais. Bon. Ça se jette dans vos bras. Ou alors, quelqu'un qui vous aime beaucoup, profondément, mais en tout honneur, bien sûr, virginal, tout ça, qui se jette dans vos bras. En une soirée, vous avez 18 ans, vous vous rendez compte? La première fois, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si cette petite fille est plus profonde que vous, si elle est plus pure que vous, et si elle est plus virginale que vous, vous avez une émotion incroyable. On appelle ça une commotion. Oh, mais c'est pas possible que se donne comme ça. Et ça intériorise. Il y a quelque chose à l'intérieur qui... Ça fait comme ça. Ça fait un mouvement de commotion, de rassemblement. Je ne sais pas l'appeler autrement que comme commotion, moi. Et cette commotion disloque, si je puis dire, ouvre les forces de votre signification sponsale du corps masculin et en libère les énergies. Et du coup, vous êtes illuminé, vous comprenez que cette personne vous aime. Et vous percevez à travers le don du corps, de cet enfant ou de la petite jeune fille, vous percevez jusqu'à quel point elle vous aime. Et c'est ça qui fait la commotion. C'est ça qui fait la révélation. Vous ne saviez pas, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas l'expérience de quelqu'un qui se donne avec cette profondeur de pureté virginale, de profondeur d'authenticité, de vérité. Alors ça vous met dans une commotion, dans une émotion, dans une révélation. Et alors là, vous êtes comme dans l'union transformante de la cinquième demeure. Est-ce que je vais assurer la réciprocité dans la même profondeur de l'ordre du don, ça? Et c'est ce que dit le pape, voyez. Mais c'est avec cette force, cette lumière, cette commotion, il y a cette possibilité, effectivement, de pouvoir se donner à son tour et d'assurer la réciprocité du don. Et ça, c'est la signature de la masculinité. C'est ce que dit le pape dans le discours du 20 février, du 6 février 80. Et vous voyez bien donc que le corps masculin et le corps féminin ne fonctionnent pas nécessairement comme le veulent les romans policiers. Ils fonctionnent selon les lois de la nature et il faut retrouver les lois de la nature du corps. Si on ne fait pas ça, alors à ce moment-là, la signification du responsable du corps est inversée et on rentrera dans une amitié avec les gens, dans une relation homophile avec les gens. C'est pour ça d'ailleurs que le monde d'aujourd'hui, qui est la troisième génération après Freud, est pratiquement homosexuel. Ah. En Occident, 80% à peu près. Même ceux qui l'ignorent. À l'armée, on sait ça. Combien de jeunes gens à l'armée ont un corps qui fonctionne selon les lois de la nature, du point de vue de la masculinité? C'est pas la majorité. Hein. Mais ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause du fait qu'il n'y a plus la lumière de Dieu, la lumière du Créateur, il n'y a plus la création, il n'y a plus la pureté de la femme, c'est vrai? Puisque la femme elle-même, c'est plutôt la séduction. L'adolescente, elle n'a pas dépassé le stade de l'adolescence quand elle découvre que son corps est capable d'attirer. Et elle n'a pas arrivé à la plénitude de du don qu'elle est elle-même, en s'abandonnant dans la pureté d'elle-même, de toute sa personne, voyez, pour toujours. Voilà. Bon, écoutez, nous verrons la prochaine fois comment on peut approfondir ces questions-là. Je crois qu'on a vu la solitude, 1, 2, l'unité, et aujourd'hui, la nudité. Et la prochaine fois, si vous voulez bien, on va regarder on va regarder un petit peu comment est-ce qu'on pourrait faire quelques petits exercices. Des petits exercices tout simples, voyez, pour faciliter la rédemption de Jésus sur cette blessure, au fond, de l'amour dans l'intimité de notre corps. Et puis aussi, on pourra essayer de regarder un petit peu comment dans le sacrement de mariage, on peut exercer le sacrement de mariage, quoi. L'ayant vu, même ceux qui n'ont pas le sacrement de mariage comme moi, L'ayant vu, c'est très commode parce que du coup, on va pouvoir vivre du fruit du sacrement de mariage. Parce que le fruit du sacrement de mariage, il est pour moi. Donc, si vous n'êtes pas appelé au sacrement de mariage, si vous ne l'avez pas, ça ne fait rien. Il faut absolument regarder le sacrement de mariage pour savoir la reste du sacrement, pour pouvoir vivre du fruit du sacrement. Parce que le fruit du sacrement est pour nous. Hein. Je pense que ça. Après ayant fait ça, je pense qu'on aura fait le tour. Parce que le but, c'était de faire quelque chose de plus rapide que. J'ai pas entendu le truc s'arrêter, mais peut-être qu'il marche pas, je sais pas. Alors, on va dire la messe maintenant, pourtant j'ai parlé beaucoup hein, cette fois-ci. Hein. C'est bien. Alors voilà. Petite nota bene. Nota bene. Quand on soulève la question de la sexualité, de la masculinité, de la féminité, on soulève des trucs qu'on ne maîtrise pas, parce qu'on a tous les séquelles du péché originel. Donc, quand le fait qu'on soulève ça, bon, il ne faut pas vous inquiéter si ça fait un malaise après, ou pendant, un petit malaise ou des troubles. Il ne faut pas s'inquiéter. Simplement, la seule précaution à prendre, c'est de ne pas laisser place à l'imaginaire et pas laisser place à l'extériorité du corps, d'accord? Alors, je veux dire par là, on est en train de tailler une vigne là, il y a des tas de trucs qui sont partis, des mauvaises herbes et tout ça. Bon, il faut couper les mauvaises herbes, c'est pas compliqué. Donc comme on est trop à l'extériorité, on ne se touche plus. C'est vrai. Même le premier mouvement, vous voyez, le premier mouvement est forcément un mouvement qui n'est pas juste. Donc on ne se touche plus, on n'obéit pas au premier mouvement, je parle du premier millimètre. Et on n'imagine pas non plus, mais on prie. Et une fois qu'on est pleinement en Dieu, à ce moment-là, on se donne. Mais on n'obéit jamais à un mouvement d'extériorité. Et attention, il ne faut pas attendre qu'on soit déjà un peu échauffé. Hein. Non, c'est pour ça que je dis, au premier millimètre, on coupe. Le corps a la plénitude de son extériorité lorsqu'il a la plénitude de son intériorité. Donc quand vous vous endormez ce soir ou demain, n'imaginez rien, ne rêvez pas, mais donnez-vous intérieurement, totalement, avec toute la féminité dans l'abandon ou dans l'accueil du don qui vous est fait dans votre masculinité, votre féminité. Et que de plus en plus, ce soit ça qui fasse votre corps, masculin ou féminin. Voilà, d'accord. Soyez bénis.